Vous voulez rester en contact avec nous en dehors des heures de diffusion? Dans ce cas, rendez-vous sans tarder sur Facebook ou Twitter. Vous y trouverez des informations insolites, des photos de notre équipe en studio ou en action, des impressions à chaud de nos reporters partis sur le terrain et bien plus encore. Deux adresses à mémoriser, facebook.com/sbsfrench et sur Twitter, on est @sbsfrench. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. À bientôt.
Eh bien, dans le cadre du Melbourne Festival, on a la chance de parler à Louise Lemoine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler du film ou de série de films que vous nous présentez justement pour ce Melbourne Festival. Ça s'appelle Living Architectures. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que c'est le projet? Parce que ce n'est pas simplement un film, en fait. Hein.
Non, en fait, c'est une série de films, Living Architectures, et qu'on a entièrement conçu, produit, distribué. Si vous voulez, aujourd'hui, Ila et moi, on travaille avec notre propre structure de production et les projets qu'on appelle des films, en fait, c'est un peu plus complexe parce que on les monte comme des projets de films qui ensuite sont distribués à la fois en salle pour être montrés, mais en même temps, parallèlement, on en fait un travail de photographie, un travail d'écriture, et donc on les diffuse sous forme de livres accompagnés d'un film. Et donc voilà, c'est un projet à la fois de production, de réalisation et d'édition par la suite. Et ces films qui seront présentés à Melbourne, donc aujourd'hui ils sont 7, mais sur 5 architectes majeurs, l'idée c'est de travailler, si vous voulez, un petit peu à rebours de ce que l'on entend par film d'architecture habituellement. Souvent une production télévisuelle et pédagogique sur un bâtiment. Nous, ce qui nous intéressait, c'est avec, notre passé en documentaire, en travail très très différent par rapport à une approche de production classique de télévision, c'était d'introduire dans le genre du film d'architecture à la fois du récit, une façon d'ouvrir sur un regard intimiste qui parle plus des habitants et des usagers d'un lieu que simplement de son architecture. Mais globalement, ce qui nous intéressait, c'était de nous inscrire dans une architecture de très grande qualité, parce que tous les architectes sur lesquels on a travaillé sont lauréats du Pritzker Prize, qui est un petit peu l'équivalent du prix Nobel pour la profession d'architecte, et d'introduire un regard sur, les coulisses, pour faire simple. Voilà.
D'accord. Et alors, peut-être, si on repart à la base, pourquoi le film d'architecture ?
Ila Beka est architecte. Moi, l'architecture, c'est un domaine dans lequel je ne suis pas professionnelle architecte, mais je m'y intéresse beaucoup. Et il a, par la suite, travaillé pendant plus de 10 ans la forme du film. Alors, les disciplines différentes qui sont les nôtres, parce que moi, je viens d'un background plus de recherche universitaire en philosophie et en littérature.
D'accord, c'est ce qui vous a amené peut-être à regarder plus justement l'humain, l'utilisation d'un building, plus que sa construction alors.
Voilà, se demander comment faire un portrait qui puisse apporter autre chose, c'est-à-dire de donner au spectateur peut-être le temps du film, l'impression de vivre l'espace qui lui est montré plutôt que de l'expliquer. Voilà.
D'accord. Et dans les 7 différents films, est-ce qu'il y a une comparaison ou est-ce qu'il y a un cheminement? Ils se complètent? Comment vous avez pu travailler justement avec ces 7 éléments différents?
Alors, le lien qui existe entre eux, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est sur la typologie des architectes. On parle d'architectes majeurs de la scène architecturale actuelle, des bâtiments qui sont pas tout à fait récents, mais qui ont une trentaine d'années pour le plus vieux dans les projets de Renzo Piano, mais entre 10 et 30 ans, si vous voulez. Ensuite, ce qui les lie, c'est une façon de les regarder, une façon de les analyser comme je vous l'ai dit, l'usager, par le quotidien, en fait. C'est ce qui nous intéressait, c'était de à travers des échelles de bâtiments différents, parce qu'on passe de la maison particulière dans le projet sur Remkolas à des bâtiments qui ont une vie beaucoup plus publique, historiques comme le musée Guggenheim de Bilbao par Frank Gehry, d'autres musées par Renzo Piano, une église chez Richard Meyer, etc. Donc on passe à la fois de l'intimité de la maison à des espaces qui donc ont une vie publique, mais ça, toujours avec une même typologie de regard, c'est-à-dire d'être guidé à travers le regard et le récit des usagers.
D'accord. Et est-ce que ça veut dire qu'en ayant fait 7, vous limitez automatiquement à 7 ou dans l'avenir, vous pensez ou vous continuez à investiguer, à faire des enquêtes et à vouloir dire peut-être passer à un autre de plus et 8 et 9 et 10 c'est un film, un projet qui continue à évoluer ?
Oui, qui continue à évoluer, mais celui-ci a comme cohérence aussi une méthode de production, c'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais au début, on a une structure de production très indépendante et tous ces projets ont été faits, à part les trois sur Renzo Piano, tous ces projets ont été faits dans une démarche d'autoproduction. Donc, c'est-à-dire qu'on était libre de nos choix et de nos financements également, ce qui est compliqué la donne. Mais aujourd'hui, on travaille sur des projets en collaboration pour des expositions. On est donc Living Architectures a une nouvelle vie aujourd'hui, mais qui est, disons, la cohérence de la série. C'est pour ça qu'on y a mis un point de suspension avec la publication de toute la collection. C'est qu'elle avait une cohérence dans sa manière d'être produite. Aujourd'hui, voilà, il y a d'autres films qui peuvent être dans la même veine.
D'accord. Quand on voit le succès d'un film comme Sketches of Frank Gehry, c'est d'ailleurs un film qui complète le vôtre, vous le sentez ? Parce que Sketches of Frank Gehry, ça parle vraiment de Frank Gehry, de la façon dont le Guggenheim, enfin, son architecture plus tout ce qui est au Guggenheim. Votre film complète ça ?
Alors, c'est intéressant parce que, disons, le genre du film d'architecture s'est beaucoup diversifié. Il y a environ 5 ans, on a commencé, parce que quand on est arrivé, nous, avec notre premier film, Call of House Life, dans l'univers de la diffusion du film d'architecture, il y avait très peu de choses qui existaient en termes de festivals, en termes d'événements. Il n'y avait pas grand-chose au niveau international. Et petit à petit, on voit qu'il y a un intérêt croissant de la part des architectes pour diversifier, disons, les points de vue. Aujourd'hui, on regarde beaucoup de films plus qu'on ne lit des livres. Donc, le film est un support très intéressant à développer par rapport à la profession de l'architecte. Sketches of Frank Gehry, pour nous, c'est un film qui s'inscrit dans une façon de travailler très différente. Disons, comme je vous le disais, notre démarche dite indépendante, elle revendique aussi une grande liberté de parole. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas de commande de l'architecte, donc on défend une façon de travailler qui soit absolument pas sous influence, dans le sens où on cherche à obtenir un point de vue très subjectif, très très libre sur le bâtiment. C'est-à-dire qu'on prend la température des lieux quand on y va et on n'a pas l'architecte dans le dos ou à côté qui nous indiquerait ou qui influencerait notre façon de regarder les lieux. Sketches of Frank Gehry, c'est un film qui est fait sur un architecte, c'est un portrait d'un architecte plutôt que de ses bâtiments et c'est une sorte de portrait psychologique, alors il a un intérêt pour ça. Mais voilà, on est dans un film de deux amis entre le réalisateur et l'architecte et qui montre aussi cette amitié-là. Donc nous, on a introduit des éléments, c'est pas notre souhait, mais on a cette liberté qu'on défend, introduit aussi des éléments critiques, une distanciation qui généralement n'existe pas dans la presse magazine ou dans les interviews. Et puis aussi, c'est un dialogue d'amitié artistique. Il montre ça, c'est un espace dans lequel il est assez autobiographique, assez introspectif. Je vous dis, je trouve que c'est un film plus psychologique sur lui et son ami Frank et sur leur psychanalyse, sur sa psychanalyse. Il a des aspects très intéressants pour ça. Nous, on ne s'inscrit pas du tout dans la même démarche. Voilà.
D'accord.
Après, je vous dis, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est d'observer qu'il y a une proposition qui s'élargit quant au film d'architecture. Et nous, on observe un petit peu tout ce qui se passe. Après, on a une démarche très, très différente par rapport à la aux films dits de grand public qui sortent sur des bâtiments.
L'Australie, vous connaissez d'un point de vue touristique, vous êtes déjà venu, et d'un point de vue professionnel, est-ce qu'il y a des bâtiments qui vous intéressent un peu en Australie? On pense bien sûr à l'opéra, mais est-ce qu'il y a sûrement d'autres bâtiments qui doivent vous faire un peu battre le cœur, non?
Alors l'Australie, on est très content d'y venir, on connaît pas, on attend avec impatience de visiter. On va passer par Sydney, donc évidemment voir le bâtiment à Sydney. Après, on est invité à Melbourne à la fondation Robin Hood également, donc on va, je crois, même loger dans la fondation qui était sa maison particulière. Et donc on va découvrir ces bâtiments-là pendant notre séjour.
D'accord. Bah écoutez, je vais. On peut que pointer les gens vers le site internet, parce que moi c'est là où j'ai vu les vidéos. En fait, il y a pas mal d'extraits de vos vidéos. Le film sera donc au Melbourne Festival. C'est gratuit d'ailleurs. C'est au Capitol Theatre. Ce sera le 12 et le 13 octobre. Donc c'est Living Architecture. Un grand merci à Louise Lemoine pour ce temps un peu passé avec nous. Merci.
Merci. Au revoir.
Vous voulez rester en contact avec nous en dehors des heures de diffusion? Dans ce cas, rendez-vous sans tarder sur Facebook ou Twitter. Vous y trouverez des informations insolites, des photos de notre équipe en studio ou en action, des impressions à chaud de nos reporters partis sur le terrain et bien plus encore. Deux adresses à mémoriser, facebook.com/sbsfrench et sur Twitter, on est @sbsfrench. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. À bientôt!